Salut Marc, salut Esmar, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter le Monday Night Raw du 21 juillet 2020, si je ne me trompe pas, ou du 20 juillet, bref. Qui suit le pay-per-view Horror Show Extreme Rules. Pour ce faire, je suis votre tonton, je suis votre Luchasaurus, je suis votre tonton Chris, et je suis accompagné en tag team partner du jour avec quelqu'un que vous connaissez bien. Je ne suis qu'avec autre que mon papy. Salut papy, ça va ?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va ?
Oh, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas parlé !
Mais oui, j'ai oublié le son de ta voix !
Oh bah oui, ça me manquait depuis Extreme Rules !
Ah oui, c'était il y a bien longtemps !
Ah oui ! Ah oui, ça paraît déjà une éternité ! Dans le catch, ça va tellement vite !
Et oui, le temps passe, le temps file !
Et ouais, à toute vitesse et à telle vitesse que bah voilà, qu'on se retrouve à nouveau au Performance Center pour le, donc c'était bien le 20 juillet 2020, et on se retrouve au Performance Center pour le Raw du lendemain d'Extreme Rules. Alors, on va attaquer avec direct, le show va commencer, on va avoir droit à des extraits de la défaite de Rey Mysterio la veille dans le Eye for an Eye, dont on vous conseille d'aller écouter la review d'Extreme Rules avec ce cher papy et moi-même. Là-dessus, on a Seth Rollins qui va arriver on stage avec Murphy à ses côtés, et qui nous dit bah, que de toute façon, bah, voilà, hein, lui, il savait à quoi s'attendre pour à ce pay-per-view. Ce qu'il a vu à Extreme Rules, ça restera gravé en lui à jamais. D'ailleurs, il en a vomi, hein, le pauvre ami. Quoi. Et comme souvent, bah, en fait, Rollins, il va blâmer la WWE pour ce qu'elle lui a fait faire à Ray. Quoi. C'est pas beau. C'est pas beau d'être comme ça. Quoi. Et que voilà, que bah, dorénavant, puisque Rey Mysterio, bah, il n'est plus dans le game, et bah, Raw va pouvoir enfin atteindre son plein potentiel au taquet grâce à Seth Rollins. Mais à ce moment-là, au moment où il nous lance ça, bah, Aleister Black, il va venir interrompre la promo de Seth Rollins. Et puis il va venir, qu'est-ce qu'il lui raconte Aleister Black, il prend le micro, mais pas longtemps, quoi. Il lui dit que le Messi va pas essayer d'atténuer ce qu'il a fait à Rey Mysterio et finalement Murphy va aller attaquer le Néerlandais pendant qu'il cause et Black lui bah le met bien à l'envers Murphy et Rollins se barre du ring et du coup on nous annonce derrière un match entre Seth Rollins et Aleister Black avec Murphy ringside. Alors mon papy, on va s'arrêter tout de suite là sur ce premier truc avec Seth Rollins. Oui. Tu t'attendais à ça ou qu'est-ce que tu t'attendais en fait sur les conséquences et la suite de ce Rollins Rey Mysterio de la veille?
En fait, le finish du match était tellement particulier à vouloir le faire en vouloir aller jusqu'au bout de la stipulation. Et du coup, bah, j'entendais plus grand-chose parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse des rebondissements cette histoire et puis parte sur d'autres thèmes, de la trahison,
Dominique,
la grosse surprise,
peut-être.
Voilà, de Dominique ou d'autres peut-être qu'on n'aurait pas vu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui gravitaient autour de cette rivalité. Et donc, je m'attendais peut-être à un rebondissement pendant le match. Alors, du coup, bah, là, après le pay-per-view, bah, je t'avoue que j'attendais plus grand-chose. Et puis, du coup, bah, la promo de Rollins et l'annonce de son match avec Aleister Black, bah, ça m'a. Ouais, bah, j'attends que c'est dit. En fait, avant le pay-per-view, je me disais, bon, bah, il est temps qu'ils se battent parce que l'histoire commence à en ronner un peu. Pendant le pay-per-view, l'histoire a ronronné, puis là, bah, du coup, j'étais toujours dans le mode ronronnement. J'attends vraiment qu'il y ait un nouveau décollage, là, parce que j'espère qu'il n'y a pas continué comme ça toutes les semaines, Rollins. Sinon, ça risque d'être vite chiant.
Ouais. Donc, du coup, ça nous emmène sur un match Seth Rollins à Aleister Black. Alors, on va avoir un match de 11 minutes 30. Donc, relativement. Enfin, on leur donne du temps, quand même, aux deux, quoi. Et écoute, moi, je trouvais ça plutôt pas mal, globalement. Ça va. Alors, le problème, c'est qu'en fait, on a beaucoup vu Aleister Black face à Murphy ces dernières semaines. Que Murphy, évidemment, est ringside. Donc, évidemment, il va y avoir tout le temps des interactions avec l'Australien. Mais ça ne va pas empêcher vraiment. Je pense qu'il y a une bonne alchimie entre Black et Rollins. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux dans le ring. Et du coup, ça va nous donner un match pas trop mal. Avec un finish qui va nous devoir la victoire de Seth Rollins. Bon, Rollins et Murphy vont continuer à attaquer Black, évidemment, post-match. Hein. Entre autres, en lui pétant le bras contre la table des commentateurs, encore et encore et encore et encore. Et finalement, et Rollins se marre même en se demandant qui c'est qui va venir ce coup-là pour venir en aide à Aleister Black. Et ben, bah personne. Personne.
Et voilà.
Et ça se terminera avec le Messi qui collera un stomp sur la main d'Aleister Black. C'était très violent. Très, très violent. Alors, Papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de catch de ce Raw?
Bah, au niveau catches, comme tu le dis, hein, c'est des catches et des physiques qui correspondent bien à Aleister Black et Seth Rollins, tout comme Aleister Black et Murphy. Donc, du coup, bah, c'est plutôt dynamique, plutôt plaisant. Il n'y a pas de grand-chose de surprenant non plus. Après, voilà, le résultat permet de mettre Rollins fort parce qu'il vient quand même en deux jours d'aligner Mysterio et Black. C'est pas anodin, je pense. Et par contre, ils se sont dit, tiens, on va éviter de se refoutre dans la merde avec cette histoire de Eye for an Eye. On va attaquer le bras maintenant. Comme ça, si jamais il y a un souci, on pourra casser des bras. Ça changera un peu des yeux à sortir de l'orbite. On fait de l'originalité. Mais bon, voilà quoi. J'espère qu'ils ne vont pas nous refaire deux mois sur les bras cassés après avoir fait deux mois sur les yeux. Mais sinon, voilà quoi. Comme je te disais tout à l'heure, hein, je ne suis pas... Je sais pas toi, mais moi j'attendais que cette histoire rebondisse et du coup là j'ai peur que ça s'embourbe en fait quand je vois le match.
Parce que tu penses que ça va nous faire une feud trop longue?
Bah trop plan-plan surtout. Il y a aussi des questions sur le contrat de Mysterio. Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il est en fin de contrat? Parce que j'ai cru comprendre qu'il était en agent libre et qu'il venait au coup par coup pour l'instant. Si jamais Mysterio doit sortir de l'histoire comme ça, puis terminer, Dominique du coup part avec parce que je vois pas la tête de garder Dominique sans Mysterio, et que du coup on se retrouve avec juste un Rollins, il est très très méchant et du coup il a l'enquille les gentils les uns après les autres, ça va en ronner sévère quoi. Donc j'espère vraiment qu'il y ait un rebondissement et qu'on revoit Rey Mysterio et puis qu'il veut se battre mais qu'il n'y a pas le droit de se battre. Je sais pas, qu'il trouve quelque chose quoi, qu'il trouve un ressort scénaristique à cette histoire parce que j'ai pas envie de voir Rollins enquiller les mecs toutes les semaines et puis dire je vais faire avec mon micro en disant je suis pas méchant, je suis gentil, etc. Ça fait un... Quand il fait ça, ça fait un sous Orton, je trouve. Parce qu'on a le Orton fou en ce moment qui dit c'est vous qui... Enfin, moi, je peux vous faire de mal, mais c'est vous qui le cherchez. Si t'as Rollins qui fait la même chose avec moins de folie, je trouve, que Orton, ça risque de faire redondant.
Ouais, peut-être, on verra. Bah écoute, en tout cas, Seth Rollins, là, il enchaîne deux matchs, deux victoires consécutives après Rey Mysterio, il bat Aleister Black. Donc, on va voir la suite pour le Messi du lundi soir. Et à mon avis, c'est loin d'être terminé toute cette affaire, de toute façon. Derrière, on va avoir backstage, on va avoir MVP, devenu l'US champion par forfait, même si on nous a jamais confirmé véritablement, quoi. Donc il s'était donc autoproclamé champion US la veille à Extreme Rules. Il est avec Bobby Lashley et il y a un ancien Hall of Famer puisqu'il y a Ron Simmons, damn, qui est là. Et on a aussi Air Truth qui va être dans un petit segment quoi où Air Truth d'ailleurs lui il nous dit que Cruz est le réel champion US. Mais MVP le prend plutôt pas mal ça et puis et en fait il invite Truth à rejoindre le groupe qu'il est en train de composer avec Lashley quoi. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Je vous le donne, Emile. Shelton Benjamin, oui, oui, vous avez bien entendu, Shelton Benjamin débarque et out of nowhere, attaque Truth, fait le tomber et devient le nouveau 24-7, 48-7 Internet European Internet Television Championship. Roll-up, voilà, on a un nouveau champion US et qui a l'air d'être pas mal à la colle avec MVP et Lashley, avec Ron Simmons. Il y a un petit air de Nation of Domination derrière cette affaire, surtout que MVP, en plus, fait même d'un peu de l'œil à Air Truth. Donc, qu'est-ce que tu as pensé? Alors là, dans le même segment, on a MVP qui est en train de monter son clan et on a un changement de titre pour la ceinture 24-7. À noter l'info qu'il vous faut, que Shelton Benjamin est le 100e à détenir le titre 24-7. Voilà quoi. Il aura fallu 14 mois pour avoir 100...
Déjà.
Règne différent de champion 24-7, dont Air Truth à lui tout seul en détient, je crois, un truc comme 40. Et ouais, donc voilà, pas... Shelton Benjamin, nouveau champion 24-7. À toi, papy.
Ah oui, non, mais en fait, MVP, il joue sur les mots, en fait. Il ne veut pas recruter Arthrous, il veut recruter le champion 24-7. Donc, depuis le début, il a des vues sur Shelton Benjamin parce que Benjamin avait perdu contre notre ami Apollo, déjà il y a quelques semaines. Et il y a eu un petit segment, alors je crois qu'il n'avait pas été diffusé à Raw, mais diffusé sur le network, où MVP disait à notre ami Shelton Benjamin, tu veux arrêter d'être un loser, rejoins un winner. Et donc, il construit son clan avec une ceinture de plus. Alors lui, sa ceinture, il ne l'a toujours pas officiellement. Mais au moins, Shelton Benjamin, sincèrement, bon, je regrette un peu qu'ils aient pas été plus loin avec les histoires des Chinois, parce que moi, ça me faisait plutôt marrer. Mais par contre, je suis heureux qu'il y ait enfin un mec qui tabasse Arthrous et qui fasse à tomber, putain, parce que ça faisait des semaines qu'il se faisait tabasser par Lashley, par Orton, et puis il n'y avait jamais personne qui faisait tomber derrière. Tu vois, c'était genre, ta ceinture, elle compte pas.
Ouais,
Donc là, ça, c'est pas un intérêt gigantesque, mais ça, pour une fois, ça donne un peu d'intérêt à cette ceinture, quand même.
Le centième règne.
Pareil en plus. Hein.
T'imagines, c'est dingue, hein, quand même. Même le titre hardcore n'a pas été autant. A pas été autant possédé, on va dire, et a pas eu droit à autant de règnes et autant de champions. Quoi. Incroyable quand même ce Roll-Up Championship. Quand on voit la liste des champions 24-7, de toute façon, elle fait un peu peur par moment.
Ah, c'est des retraités de la low-card.
Voilà. Bon, du coup, MVP, Lashley et Benjamin, ils vont arriver sur le ring, parce que ça va s'enchaîner là-dessus. MVP donc continue à se présenter hein, comme le nouveau champion US. Là-dessus, on va avoir la nouvelle team, mais les Ricochet et Cédric Alexander qui débarquent parce que comme ils sont un peu invectivés par le MVP, ils traitent MVP de lâche hein, parce qu'il ne mérite pas la ceinture, bien évidemment. C'est Alexander qui prend le micro pas mal, quoi. Et voilà, quoi. Et ils viennent se chauffer, quoi. Donc, évidemment, là, on voit le truc arriver à des kilomètres. Hein. Sauf que Ricochet et Alexander, ils sont que deux, alors que la team MVP, ils sont trois, donc il faut bien un partenaire pour rejoindre tout ça. Et là, on va avoir une nouvelle arrivée et on va avoir un mec qui était normalement à SmackDown, mais qui semble être tradé à Monday Night Raw. Et c'est en l'occurrence l'homme au masque, Mustapha Ali.
Oui,
papy, content de revoir Ali.
Hésitation. Alors, en fait, bon, je vais pas le cacher. J'avais été un peu spoilé de son retour parce que malheureusement, j'avais eu un mauvais réflexe de lire des rumeurs peu avant le show qui disaient qu'il était sur le point de revenir et qui ça serait certainement à Raw parce qu'en gros c'était un trade AJ Styles versus Ziggler, Roode et Ali.
Donc d'accord, il y a Roode aussi qui doit venir à Raw alors.
Oui, c'est Ziggler qui l'a annoncé ça, qui a dit qu'il avait été tradé avec lui contre AJ Styles. Après, c'est quand il pourra passer à la frontière, hein. Je ne sais pas quand ça sera, vu qu'il est coincé au Canada, c'est pas pour tout de suite.
Oui.
Mais Ali, du coup, quand ils ont annoncé un nouveau mec, malheureusement, j'ai tout de suite pensé à Ali, donc ça m'a un petit peu gâché la surprise. Je pense que j'aurais été plus surpris, plus heureux si je n'avais pas été spoilé avant. Et Ali, qu'on pensait être un hacker mystérieux qui, en fait, est juste un catcheur de Raw. Bon, il est pas maladroit dans le ring. J'ai peur que tout le travail qui a été fait pour le rendre un peu le policier, le justicier, et disparaisse totalement. Je ne sais pas trop quoi attendre d'Ali, en fait. Là, est-ce qu'ils ont un problème pour lui ou est-ce que c'est juste pour faire nombre parce qu'il y a trop de manquants à cause du Covid? J'ai peur que ce soit la deuxième option, mais bon, on peut toujours espérer quand même un meilleur sort pour lui.
Ouais, en tout cas, Ali, dans le ring, ça reste quand même pas mal. On va avoir un 3 contre 3 du 4 à 6. Ricochet, Cédric Alexander, Mustapha Ali, donc versus... Alors, je ne vous ai pas encore donné le nom, mais voici le nom de la team MVP, puisqu'elle s'appelle en fait The Hurt Business. Voilà. MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Donc on va avoir un match assez solide hein, parce qu'on va avoir un match de 15 minutes. Donc un 3 contre 3 quand même bien bien animé. Comme on a en plus 3 flyers et on a un Shelton Benjamin qui n'est pas non plus maladroit dans les airs hein, quand il s'agit de le faire, malgré un gabarit un peu plus impressionnant. Et du coup, on va avoir un match qui va être bien bien rythmé. 15 minutes qui passent assez vite, voilà, avec un peu d'interaction à l'extérieur, fatalement, comme dans un tout bon 3 contre 3 qui se respecte. Les faces vont quand même, malgré quand même, alors on en parlera après, mais bon, moi ça m'a un peu étonné, mais parce qu'il y avait quand même un différentiel de gabarit là assez important, et surtout en plus avec la présence de Bobby Lashley. Mais voilà, ça va enchaîner justement du high flying, et Ali va passer un neck breaker, avant de monter sur les poteaux, et il va nous porter un sacré 450 splash. Pour la victoire des Faces. Et donc, sans qu'on sache finalement trop ce que ça va pouvoir apporter aux trois jeunes, là, aux trois voltigeurs, et ben Ricochet, Cédric Alexander et Mustafa Ali gagnent et battent The Hurt Business. Alors,
voilà.
Pour toi, ce match, ça a donné quoi, papy ?
C'était plutôt sympathique. C'était plutôt intelligemment construit aussi. Comme tu le disais, il faisait face à la montagne Lashley. Pour le coup, il était plutôt éliminé intelligemment parce qu'ils sont mis à 3 contre lui pour le sortir de mémoire.
Ouais.
Je crois, je sais plus, c'est super kick ou je sais pas quoi, puis un saut de Ali qui passe par-dessus la table. Enfin, ils se mettent vraiment à 3 dessus pour l'éliminer. Donc, bien montrer que Lashley est encore méga, méga super fort. Et autre bonne idée que j'ai trouvée, c'est de ne pas faire perdre Shelton Benjamin. S'il avait perdu pour le 2 secondes après avoir pris le titre 24-7, ça m'aurait fait chier, mais d'une force. Là, au moins, il y a un peu de cohérence. C'est MVP qui prend le pin. MVP, il a plus de temps, aucune crédibilité. C'est un faux champion US.
Ah, ça, ouais, je suis bien d'accord.
Ils prennent tous les pins du monde, ça ne me dérange absolument pas. Ça donne une victoire à Ali qui revient. Pour le coup, les idées étaient bonnes pour le match. Puis le match était plaisant. Effectivement, comme tu dis, ça high fly partout. Benjamin, il envoie du. Enfin, il est toujours très solide dans le ring. Là, je suis aussi.
Il est en forme, hein.
Ouais, c'est des mecs qui sont. En plus, c'est marrant parce que c'est aussi le choc des générations, en fait. Parce que je crois que les trois doivent avoir la quarantaine entre MVP, Lashley et Benjamin.
Je crois que Benjamin, il a 42 ans, je crois même.
42.
Là, on a des quadras et on a un MVP qui doit être aussi.
Il doit être plus proche des 45, je pense, MVP, lui. En tout cas, c'est les quarantenaires versus les trentenaires parce que les trois autres en face, je pense qu'ils ont tous à peu près le même âge, une petite trentaine. C'est bien, c'est le choc des générations, c'était plutôt dynamique. Ça mange. On a décrédibilisé personne dans l'affaire. Franchement, ça remplit son contrat, ce type de match.
Ouais, puis 15 minutes, c'est bien, quoi. Tu vois, il y a le temps un peu d'apprécier un peu ce qui se passe entre les cordes. Là, t'as trois jeunes qui sont quand même on fire avec mon Ricky la belle vie. Donc, voilà. Pour la petite info, Montel Vontavious Porter, il a 46 ans.
Voilà. Donc,
voilà. Et Shelton Benjamin, lui, il en a 45.
C'est le Tibi, là. C'est plus le petit bébé à sa maman.
Un bon pote à Brock Lesnar. Tiens, Brock Lesnar, où il est en ce moment, celui-là ? En train de chasser des rennes quelque part au Canada.
Voilà, il est avec Bobby Roode.
Avec Bobby Roode, bah oui, du coup, ils se sont retrouvés tous les deux, puis ils se sont dit, bon, allez, on va aller chasser le caribou, là, ça va être sympa, on va s'éclater tous.
Voilà, avec les Singh Brothers aussi, enfin, toute la bande de Canadiens.
Voilà. Et tiens, toi bien, Bobby Lashley, il a 44 ans. Putain, quel shape, il a le mec à 44 ans, quoi, quand même.
C'est comme quoi, hein, c'est, tu vois, là, on verra peut-être dans 5 ans dans Tao Drama, mais en tout cas, maintenant, on peut très bien avoir des catcheurs qui soient 45 ans, puis qui soient.
Un
inventeur sans souci, quoi.
Non, mais c'est clair, ouais. De toute façon, ils sont Lashley ou Shelton Benjamin, ils sont totalement crédibles, hein, malgré leur âge, hein. Je veux dire, quand tu vois physiquement un peu les baraques, etc. Et puis, il n'y a pas de problème sur le cardio et tout ça, tu vois, comme il y a pu avoir avec des Batista ou des choses comme ça. Là, c'est des mecs qui sont en pleine forme, qui s'entretiennent, qui sont au top de leur taf, quoi.
Ils sont encore en plein temps, ça aide aussi. Hein.
Et ça aide, c'est clair. Ouais. C'est clair que c'est un gros avantage d'être à ton pain. Voilà, et bah écoute, derrière, après ce match, donc la victoire des Faces, bravo Ricky! On va retrouver Randy Orton vite fait qui va juste nous faire le truc habituel pour nous builder le main event de ce soir qui va être un non-sanction match entre le Big Show et Randy Orton. Donc Randy Orton, il est satisfait de lui, hein, comme d'habitude. Mais bon, il nous annonce qu'il va frapper le Big Show et qu'il va donc ni plus ni moins mettre fin à la carrière du gros spectacle. Voilà.
Voilà.
Il est comme ça, Randy Orton. Derrière, tout, dans les coulisses, on voit toujours, il y a toujours Ron Simmons qui est là, qui est en balade. Cette fois-ci, il est en discute avec les Viking Raiders. On va avoir après quelques highlights de la carrière du Big Show. Ça me fait toujours bizarre de revoir le Big Show avec les cheveux longs. Ça fait toujours un drôle d'effet de le revoir à la WCW et tout. Le jeune Paul White, ouais. Quelle carrière hein, quand même. Hein, quand tu revois un peu quelques highlights comme ça, ça te rappelle quand même un peu le background du mec, quoi. Et même s'il a les genoux en capilotade, quand même, quelle carrière, quoi, le Big Show, quoi.
C'est une des légendes, c'est une légende de la WWE.
En tout cas, dans les géants, oui, il restera comme une légende. Ça, je pense qu'il intégrera le Hall of Fame assez vite, de toute manière, le Big Show derrière.
Oui, certainement.
Mais bon, on ne se rappellera pas forcément énormément de ses toutes dernières années de carrière, quoi, qui sont quand même pas. On en reparlera dans le main event.
Oui.
Voilà, dernier petit truc en coulisses. On va avoir une petite interview satellite avec Christian. Qui est finalement là un peu pour nous donner son prono quasiment, quoi. Il se la joue un peu catch-up finalement, Christian, avec Samoa Joe à l'interview, quoi. Voilà, il est quand même étonné un peu du coup de salopard que lui avait fait Ric Flair lors du match qu'il avait eu face à Orton. Mais Christian nous indique quand même un truc, c'est qu'il nous indique quand même qu'il est prêt à recommencer à subir de la douleur, quoi, si ça doit permettre à ce que Orton en prenne plein la tronche de son côté aussi. Donc finalement, Christian, il ouvre un peu la porte à un fameux One More Match, non ?
Ah, One More Match, ce serait tellement beau, Christian. Mais bon, je pense qu'il risque sa santé pour ça non plus, notre ami Christian.
Mais... Ah, je suis étonné, moi, ça. Hein.
Ouais, ben, moi, je reste très perplexe là-dessus. Clairement, le match qui... Enfin, le match... Le segment à Orton, ils ont quand même tout fait pour pas qu'il catch, quoi. Il se prend un low blow dès le début, puis
Il est
terminé avec le punt kick... Donc voilà, donc je reste perplexe. À moins qu'ils en jouent, qu'ils cachent vraiment bien leur jeu, moi je pense vraiment qu'il n'est plus du tout apte. Après, on a vu beaucoup de revenir, donc pourquoi pas. En plus, j'ai l'impression que c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup, mais qu'un retour pour un retour, qui prenne soin de sa santé quand même, c'est ça le plus important.
Ouais. Enfin, en tout cas, il a laissé une porte ouverte. Et on verra la suite. Là, il s'est contenté finalement de souhaiter bonne chance au Big Show pour son match. Et puis voilà, la suite au prochain numéro, comme dirait l'autre. On reste dans les coulisses, on a Sarah Schreiber qui va nous interviewer, Bianca Belair qui est elle aussi qui dit qu'elle est de retour, quoi. Et elle va avoir une interaction pas très sympathique avec Peyton Royce des Iconics. On sait pas trop d'ailleurs pourquoi Peyton Royce elle dit à Belair que de pas venir le mettre le nez dans ses affaires, mais bon, c'était Bianca Belair qui a été interviewée à la base, donc bon, voilà. Du coup, on a Ruby Riott qui apparaît elle aussi. Du coup, Royce et Peyton Royce continuent de se chauffer et tout ça se termine dans le ring. On va avoir donc un Ruby Riott versus Peyton Royce. Woo! Un match de 3 minutes 20. Wouh,
génial.
Voilà, donc match très court qui va voir Royce même nous tenter un petit roll-up avec l'aide des cordes, mais elle va même pas réussir à le faire. Ce genre de choses que Bailey n'aura jamais, par exemple. Du coup, elle va tenter quand même. L'Australien va avoir un petit peu de domination finalement au départ, mais Riott va tout contrer. Elle va enchaîner, elle va porter son Riott Kick. 1, 2, 3, victoire de Ruby Riott. Voilà, t'as beaucoup de choses à dire sur ce Ruby Riott versus Peyton Royce. Il n'y avait pas Billy Kay. Déjà, tu devais être satisfait, il n'y avait pas Billy Kay.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ils m'ont fait le cadeau de ne pas mettre Billy Kay, donc ça m'a évité de m'énerver tout seul devant mon écran. Et sinon, non, rien de spécial. Ruby Riott débloque son compteur après une grosse série de défaites en 1 contre 1. Là, c'est la première victoire en one-to-one depuis longtemps. Par contre, ouais, moi, j'aurais plus préféré voir Bianca Belair dans le ring que Ruby Riott. Hein, donc,
moi aussi. Hein.
Ce match-là m'a pas emballé des masses. Ça m'a vraiment fait, et c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti dans ce show. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un match de remplissage. Là, que, ils ont pris les gens qui étaient dispo, et puis allez-y les filles et battez-vous. Quoi. Il faut de la low card, mais là pour le coup, c'est pas la low card où t'as l'impression qu'ils essaient de raconter une histoire, c'est plus la low card, vous étiez là, donc battez-vous. Quoi. Donc,
c'est clairement ça. Bon, du coup, on va retrouver Charlie Caruso. Ah, magnifique.
Ah, la belle Charlie.
Souvenez-vous, magnifique. Qui va interviewer Zelina Vega et les Vega Boys, quoi. Hein, donc, Andrade et Angel Garza, quoi. Et voilà, Charlie, elle veut savoir si, s'ils sont sur la. On the same page. Et voilà, et Vega, du coup, elle aime pas trop quand Caruso elle chauffe un peu trop avec ses deux hommes, quoi. Donc, elle reprend vite. Le micro, quoi. Elle dit qu'ils sont prêts, qu'ils sont unis, que ce soir ils vont affronter les Street Profits, qu'ils les attendent, qu'ils se demandent bien où ils se cachent, parce que c'est vrai que les Street Profits, on les a pas beaucoup vu catcher ces derniers temps. Et voilà, donc petite promo classique de Andrade et de Garza. Comme d'habitude, Garza fait un peu les yeux dus à Charlie, mais Zelina, elle est pas d'humeur ce soir, quoi. Et donc, elle est venue justement pour que ça se rapproche des ceintures, comme elle va nous le dire. Et que rien ne va pouvoir les arrêter, mais justement, au moment où elle dit ça, et ben bam! Les Street Profits qui leur tombent sur le rap par derrière. D'ailleurs, pas très très joli hein, de la part de Face hein, d'attaquer par derrière comme ça dans les coulisses avant un match. Derrière, on va avoir le match entre les Street Profits donc, et Andrade et Angel Garza. On va avoir un match pas. Ouf, 11 minutes 5, ça va, c'est pas mal. 11 minutes 5 pour un match de tag team, c'est quand même pas mal. Donc avec à peu près toute la balade totale. Moi, c'est marrant, moi je rigole parce que quand je regarde Andrade et Angel Garza ensemble, j'ai l'impression de voir une symbiose de Eddie Guerrero. Je trouve que Andrade a un peu le gabarit de Eddie Guerrero et que Angel Garza a un peu la gueule et la moue de Eddie Guerrero. Et donc du coup, ça, je trouve que ça fait une symbiose et ça me fait marrer moi à chaque fois que je vois ça. Et je terminerai victoire des Street Profits. Avec un frog splash de Montez Ford, mamma mia quoi, un frog splash mais incroyable quoi, remis au ralenti et bien bien apprécié par les commentateurs américains. Voilà, donc victoire des Street Profits, qu'est-ce que t'en as pensé Alors déjà, si papy, je vais te demander en fait. Voilà, Angel Garza ouais. Et Andrade, on est d'accord, ils deviennent quasiment officiellement les number one contenders là.
Non mais je suis. Alors je voulais pas commencer par ça, mais du coup vu que tu me lances, je vais y aller tout de suite. Ou alors je comprends vraiment rien, c'est possible. Hein. Tu sais, je suis un peu gâteux, tout ça, j'ai les neurones qui circulent. C'est peut-être moi qui comprends rien. Mais j'avais bien compris que le match, à l'origine, ça avait été annoncé pour le titre. Pas ce soir, mais les jours d'avant, ils avaient dit on aura un match pour le titre, ceinture tag team, lundi, Arrow, attention, venez voir ça, venez nombreux.
Oui, oui.
Et au final, on est d'accord. Oui, oui. Un match, et pas pour le titre, mais pour se rapprocher des titres. Donc je comprends que Zelina Vega soit vénère parce qu'on t'annonce un match pour le titre et puis t'arrives le lundi et puis il n'est plus pour le titre. Moi, j'étais pas simplement énervé aussi. Et je n'ai pas accroché du tout au match parce qu'en fait, j'étais en train de bouner dans mon coin. Et j'ai deux choses à dire sur ce match. Et d'une part, bah, les tenues étaient pareillées. Ils ont perdu. Tant pis pour eux. Je leur avais dit, moi, aux Mexicains qu'il fallait avoir des tenues similaires pour qu'elles s'imposent. Et d'autre part, effectivement, le frog splash de Montez Ford est vraiment énorme. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu, il se retourne dans les airs. C'est-à-dire qu'il
finit face au poteau. Tu fais bien de le signaler. Ouais.
Il pivote en fait au moment où il est le plus haut. Il retombe, blam. Enfin, franchement, je n'ai pas souvenir d'avoir vu, surtout à cette hauteur-là en fait. Un mec qui saute aussi haut et qui vraiment puisse se retourner, c'est tout bonnement impressionnant. Et de mémoire, la fois d'avant, il avait fait un frog splash depuis les cordes. Donc, il nous fait des variations sur le thème qui sont plutôt sympathiques à voir. Et c'est la seule chose sympa de ce match, finalement, parce que le reste, ça m'a dégoûté de le regarder, en fait. Donc, voilà, je bouconne dans mon coin.
Je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, je m'attendais à un match pour les ceintures. Hein. Sur le coup, je m'étais dit, ça n'avait pas été défendu la veille à Extreme Rules. Donc là, moi aussi, quand j'ai commencé à voir les premiers segments sur la Tag Team Division, je me suis dit, là, ils vont. Voilà, il n'y a pas d'histoire, quoi. Ils vont nous annoncer un match pour le titre, quoi, là. Et ben non.
Ouais.
Et ben non. Voilà, quoi. Donc on nous fait une redite et il n'y a même pas de ceinture en jeu. Donc du coup, c'est vrai que du coup, il n'y a plus tellement d'enjeux dans ce match, quoi.
C'est ça. Et c'est ce qui m'a énervé encore plus, c'est qu'à un moment, je ne sais plus quand, si c'est la présentation des équipes ou si c'est lors de l'interview avec Charlie, c'est qu'ils nous disent les Street Profits, ce sont les champions tag team d'Euro qui ont tenu la ceinture le plus longtemps depuis 2016 ou un truc comme ça. Enfin. Une grande durée parce que a priori ça fait un sacré temps qu'ils l'ont en continu, mais en même temps ils la défendent jamais parce que les Viking Raiders ils ont fait du mini golf et du bowling avec eux, là ils ont des contenders, ben non, ils défendent pas la ceinture, ils font un match normal. Effectivement, à ce prix là tu peux la garder longtemps ta ceinture si tu la défends jamais, Mais bon, je peste, je bougonne.
Voilà, on ronchonne à catch-up, on est comme ça, les amis.
On est des vieux cons.
Bah ouais, surtout quand on n'a pas été, on n'est pas encore passé par la cantine là, avant de faire la review, donc du coup, on n'a pas eu notre flan au caramel. Et voilà, hein, il suffit d'un petit grain de sable et bam, Street Profits versus Angel Garza et Andrade, et bah, ça nous a gâché le truc de ne pas voir les belles ceintures mises en jeu.
Et aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, c'est proctologie, donc franchement, c'est vraiment pas un jour pour nous faire chier.
Alors bon, derrière, bah voilà, après ce finish, on va juste voir d'ailleurs Andrade et Angel Garza. Alors, ils vont s'engueuler dans les coulisses, quoi, avec Zelina Vega qui est tout le temps en train de les calmer. Ils ont quand même des problèmes relationnels, hein, les deux Mexicains. Hein. C'est pas tous les jours dimanche. Hein. Donc voilà. Alors là-dessus, on revoit le finish du match entre Asuka et Sasha Banks à Extreme Rules, avec Bayley en mode zèbre qui a piqué le t-shirt de l'arbitre et qui a autoproclamé sa cupine championne. Sur le ring, on retrouve Bayley et Sasha Banks qui célèbrent d'avoir toutes les ceintures du main roster finalement en leur possession. Banks elle dit de cage, donc c'est dès le lendemain hein, ça. Hein. Elle cache qu'on lui reproche d'avoir volé le titre de Raw, quoi, mais que Asuka, bah, en fait c'est pire parce qu'elle, on lui a carrément donné. Quoi. Donc elle rappelle quand Becky avait annoncé sa grossesse et qu'elle avait donc sorti de la mallette de Money in the Bank le titre féminin de Raw. Mmh. Donc pour Bayley, elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'elle soit désignée comme arbitre d'un match voilà, dans ce cas de figure-là. Au moment où elle dit ça, Asuka et Kairi Sane débarquent. Les Japonaises, elles n'ont pas trop le temps de faire grand-chose puisque via satellite, après Christian, cette fois-ci, on a le droit à Stéphanie McMahon qui apparaît sur le Titantron. Et elle nous annonce quoi ? Elle nous annonce que Banks n'est pas la championne de Raw, mais qu'Asuka n'est pas la championne de Raw. Donc la championne de Raw, mes amis, c'est vacant. Voilà.
Voilà.
Vacant est la nouvelle championne de Raw. Et donc la semaine prochaine, à Raw, Asuka et Banks s'affronteront pour le titre vacant. Alors, Papy, t'as pensé quoi de ça là ? De finalement, comment ils ont réglé l'affaire du titre de la Extreme Rules ?
Alors, je suis très partagé sur cette affaire parce que, d'une part, moi, j'avais râlé et j'attendais vraiment qu'une autorité apparaisse pour ramasser le caquet à Bayley. Donc, le fait que Stephanie McMahon apparaisse, alors j'ai failli dire soit là, mais non, je me suis rattrapé, apparaisse parce qu'elle n'est pas là physiquement. Et donc c'est bien que ce soit Stéphanie qui intervienne, mais par contre via satellite encore après Christian, finalement le manque de public, je commence à m'habituer, mais alors par contre via satellite, ça me fait saigner mon petit cœur là, de voir trop de segments comme ça là, j'aurais pas pu, je sais pas moi, prendre un arbitre, lui foutre une perruque et puis le faire décider. Enfin bref, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et en plus la logique de dire bah, Sacha, tu n'as pas gagné, donc tu n'es pas championne. Par contre, Asuka, tu n'as pas gagné. Donc, du coup, on refait un contre un avec en plus, parce que c'est là où c'est encore meilleur, c'est que si jamais tu perds, même par disqualification, même par contact, même s'il y a une intervention, tout ça, bah, la ceinture changera de main quand même, en fait. Enfin, elle ne changera pas de main, mais... Le vainqueur, quelle que soit la raison dont il gagne, il n'a pas besoin de gagner par soumission ou par pin, il peut gagner par n'importe quoi, il prendra la ceinture en fait.
Ouais.
Et du coup, je dis, ben, ça avantage Sacha vachement en fait. Alors certes, elle ne va pas pouvoir se faire aider par Bayley, mais il suffit qu'elle fasse un contact ou je sais pas moi, que ben, Shayna Baszler intervienne parce que Peter, elle a l'air à chaque fois de s'intéresser à ce sujet-là, on en parlera tout à l'heure. Mais enfin bref, j'ai du mal à comprendre ce truc-là, mais bon, pour les jeunesses. Hein.
Ouais, et du coup, on nous book un match Kairi Sane versus Bayley derrière. Voilà, donc la championne de SmackDown qui fait un match à Raw. Bon, ok. Voilà, alors c'est un match qui va durer assez longtemps parce que c'est un match de 15 minutes.
Oui.
Mais parce que, en l'occurrence, il va être coupé par la présence de Shayna Baszler qui est en train de regarder en coulisses, en fait, tout simplement.
Mm-hmm.
Et où elle est interviewée. Et donc elle répond qu'elle explique que qu'elle a de l'intérêt à suivre le combat, qu'elle a battu tout le monde dans la division, et mais qu'on lui donne toujours pas de match. Elle a pas tort, hein, c'est vrai que ça fait un paquet de temps qu'on l'a pas vu, quoi. Et donc voilà, et elle se voit comme le White Shark, comme le grand requin blanc, le grand requin blanc avec des proies partout autour d'elle dans l'eau, quoi. Donc ça serait peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle que Shayna Baszler revienne un peu dans le game, en particulier à Raw. Voilà, finalement pendant ce temps le match lui s'est déroulé, Bayley et Zayn vont nous sortir un match plutôt pas mauvais quoi. Et mais alors ça moi j'avoue que ça m'a surpris, mais Kerry Zayn, bah voilà, on est chez les filles, Bayley elle va balancer son elbow pour un compte de deux, derrière elle va vouloir enchaîner avec une Bayley to Bayley ou Bayley to Bayley ou Bayley to Bayley au choix. Et mais c'est Zayn va la surprendre et elle va la choper pour un roll-up et 1-2-3 et c'est Kerry Zayn qui gagne le match face à la championne de SmackDown.
Papy. Mais oui.
C'est Taker, Bayley, Kerry Zayn, ça en fait du monde.
Ça en fait du monde. Alors bon, je vais tout de suite faire le sort de notre amie Shayna. Moi je trouve qu'elle est inquiétante quand elle parle pas, Shayna Baszler, parce que dès qu'elle ouvre la bouche, elle a la voix d'une fille de 12 ans. qui essaie de voler les billes de sa copine à la cour de récréation, et donc j'arrive vraiment pas à y croire quoi. Donc surtout qu'elle parle avec ses poings et qu'elle arrête de parler avec sa bouche. Voilà pour le sort de Shayna. Sinon le match ouais, était plaisant, mais encore une fois comme tu le disais, c'est la championne de SmackDown qui affronte Kerry Zayn. Alors je veux bien qu'elle ait les ceintures par équipe, mais voilà, c'est en fait, ça me fait un peu le même sentiment que l'opener avec Rollins. En fait, on peut pas dire que c'est du mauvais catch. Et bien sûr, quand ils s'affrontent. Mais par contre, le truc commence à vraiment tourner en cycle fermé, à avoir tout le temps les mêmes têtes, tout le temps les mêmes oppositions, et sans forcément que les histoires avancent. Enfin, là, elles avancent un peu avec l'opposition la semaine prochaine, mais du coup, bah. Quand t'as annoncé qu'il va y avoir un Sasha Asuka niveau deuxième épisode, t'as envie de voir ce match-là, t'as plus envie de voir le Bayley versus Kerry Zayn. Enfin, ouais, bah, je reste perplexe par ses choix.
Ouais.
Je sais pas voilà. Trop ce que ça te fait.
Moi, de toute façon, Bayley, Sasha, on le disait déjà hier. voilà, elles sont sur tous les shows, elles sont présentes sur tous les fronts. Donc bon, voilà, moi c'est surtout la décision de Stéphanie McMahon qui, on a dit ce qu'on pensait du finish de Extreme Rules vis-à-vis des filles, voilà. Tu vois, quand je vois un truc comme ça là avec l'intervention de Stéphanie McMahon, c'est là où je me dis un general manager, ça me manque.
Oui, oui. Alors, je te suis à 100% là,
franchement. Voilà, on aurait eu un William Regal là qui aurait débarqué sur la rampe, qui nous aurait balancé un truc au micro et tout ça, bah ça serait mieux passé. Moi je trouve que vraiment ça manque, hein, ce general manager. Voilà, dans des cas comme ça où on a quand même eu l'exemple avec Extreme Rules où ça s'est beaucoup auto-booké, auto-proclamé et tout ça. Ah, peut-être que si on avait un peu de general manager à SmackDown et à Raw, peut-être que ça se passerait un peu différemment, non?
Ouais, ou alors si tu ressors, enfin, ils ont de temps en temps, ils se souviennent qu'ils ont des bookers, là, comment ils s'appellent, tu sais, le grand chauve, là, qu'on voit souvent, qui est un ancien catcheur aussi. Son nom m'échappe.
Ah oui,
le bouleux, d'ailleurs.
C'était Tensai.
Non, pas lui. Nos auditeurs vont peut-être retrouver son nom. Il me semble que c'est pas un mec qui était à la WWE, qui était plutôt sur d'autres fédérations américaines. Et un grand plutôt baraqué chauve et qui est booker donc et qui souvent du côté SmackDown est utilisé pour tu sais faire un peu office de figure d'autorité, tu vois, c'est-à-dire que tu sais la fois il y a eu l'accident de voiture, c'était lui qui avait réuni tous les catcheurs pour dire finalement AJ Styles tire directement en finale tandis que Bray
ouais je vois plus, ouais.
J'ai
plus son nom en tête, mais je vois de qui tu parles.
En tout cas, il est identifié comme quelqu'un d'autorité, en fait. Et à la limite, que ce soit des bookers, alors, tu sais, il pourrait très bien ressortir d'Yvonne, qu'on a vu la veille à Extreme Rules. Moi, si un mec comme ça venait dire, bah non, mais arrêtez vos conneries, on est les bookers, c'était pas vraiment la championne, on va remettre le match, etc., bah à la limite, ça m'irait très bien, en fait. Pas forcément besoin d'une figure, un general manager. Identifié, même si moi c'est le genre de personnage que j'aime bien parce que ça crée toujours des histoires, enfin il y a toujours des rivalités qui naissent grâce au général manager. Mais voilà, ouais, au moins un mec qui représente l'autorité, quoi, qui représente la boutique, et pas on gère le show tout seul, il y a plus de public, il y a plus d'autorité. Limite en plus, on fait les commentaires nous-mêmes de temps en temps. Enfin, il y a besoin qu'il y ait un peu de mot d'ordre là. Hein. Qui c'est qui les patrons là, hein. C'est gentil là,
c'est
les
boss.
Génération Z, Y et tout ça là, mais hein, on va écouter un peu les darons. Bon, mais oh.
Alors, en parlant de daron, il y en a un qui arrive, un daron, c'est le champion. Le champion du monde, le World Heavyweight Champion, le bel homme, le Drew McIntyre, le psychopathe écossais qui rejoint le ring, qui vient nous faire une annonce concernant son futur. Et il appelle Dolph Ziggler, son adversaire de la veille à Extreme Rules, qu'il a battu avec un Claymore, qu'il le rejoigne sur le ring. Encore une fois, le show-off a failli battre le champion, mais il a seulement failli. Et donc, Ziggler, il se démonte pas finalement, puisqu'il arrive sur le ring et puis il dit qu'il a vu en McIntyre quelque chose qu'il avait encore jamais vu en lui, c'est de la peur. Bon, d'accord, Dolph. Hein. Et évidemment, qu'est-ce qu'il fait, Ziggler, dans ces cas-là? Et enfin, en général, il fait toujours ça. Il demande un autre match.
Voilà, un match aussi.
Parce qu'il considère qu'il le mérite au vu du match de la veille à Extreme Rules. Quoi. Voilà, il est comme ça, Ziggler. Quoi. Et du coup, en fait, Drew McIntyre, il lui tourne le dos et puis il fait mine de s'en aller. Ziggler le retient. Pas de chance, il fallait pas faire ça parce que McIntyre, du coup, il se retourne et il lui porte un Glasgow Kiss, un bon gros coup de boule écossais des familles. Ziggler, un peu sonné, il va reprendre le micro. Il va dire au champion, non, t'en vas pas. Il donnera et qu'il est prêt à donner tout ce qu'il veut à McIntyre s'il lui donne un rematch, quoi. Et puis, on vous l'a déjà signalé, hein, Drew McIntyre, c'est un homme gentil. C'est un homme qui répond souvent favorablement et positivement aux propositions. Et il accepte le challenge. Mais il veut une stipulation pour ce match, mais il ne la révélera à Ziggler qu'au moment du match. C'est un prêté pour un rendu, en fait.
Voilà. Ça nous boucle un peu le Raw de la semaine prochaine, hein, parce que ça est annoncé un peu plus tard. Ce match-là aura lieu au prochain Raw. J'ai eu peur, moi. Sincèrement, j'ai eu peur que ce soit pour SummerSlam. Alors là, je me serais dit, oh putain.
Ziggler à SummerSlam. J'avoue que moi aussi, ouais, là, ça m'aurait quand même laissé sur le cul, ça. Hein,
ils ont fait un bon match, hein, y a pas de souci, mais par contre, en termes d'affiche, ça, j'aurais trouvé que ça aurait fait vraiment pauvre et ça a vraiment fait style. C'est le Corona Mania, donc maintenant on met ceux qui sont là, puis voilà, rouler quoi.
J'espère qu'on va nous proposer une autre adversité à Drew McIntyre
pour même s'il gagne encore, hein, un vrai mec, une belle victoire dans un show de prestige, même s'il risque de se passer encore une fois à huis clos, malheureusement. Et sinon, pour le reste, oui, c'est plutôt intelligemment fait de la part de Drew qui donne le match, mais qui en même temps il va trouver une stipulation pour humilier Dolph Ziggler parce que, comme il dit, hein, je t'ai déjà roulé dessus, je vais pas te rouler dessus trois fois. Il y a d'autres adversaires qui méritent leur chance. Le fait que ça soit pas SummerSlam, c'était ma seule crainte là pour l'Euro la semaine prochaine. Pourquoi pas, on allonge un petit peu la sauce parce que justement on a besoin de meubler les choses. Pourquoi pas.
Ouais, voilà. Bon, écoute, tout ça nous emmène sur notre main event qui est donc le unsanctioned match entre Randy Orton et Big Show. Le Big Show va avoir une petite promo vite fait avant que ça débute sur le ring. Ça m'a fait marrer parce qu'il a parlé de tous les mecs en fait qui ont aidé Orton pendant toute sa carrière. Et qu'au final, Orton les avait tous trahis.
Sans blague.
J'ai trouvé que c'était plutôt de bon aloi de la part du géant. Quoi. Et puis, mais qu'il est conscient que quand même ce match peut-être marquer la fin de sa carrière. Quoi. Mais que donc ça va le rendre plus dangereux, le Big Show. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve sur le ring avec Randy Orton et le Big Show. On va avoir un match de 13 minutes 45. Ce qui, je pense, pour le Big Show est déjà assez énorme. Match relativement équilibré, quoi, même si Big Show va quand même placer Orton sur une table pour une Vader bomb. La vipère a des réflexes et la vipère va réussir à s'échapper, quoi. Il va tenter un premier RKO avec un near fall. Ça va pas marcher. Il va aller chercher une chaise à l'extérieur. Il va frapper à plusieurs reprises avec la chaise. Derrière, il va enchaîner avec son DDT. Et derrière, le RKO pour la finale. Donc là, on a vraiment le classique de Randy Orton pour commencer et finir un match. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour Randy Orton, puisqu'il va terminer alors que le match et le gong a sonné. Et Randy Orton, il va porter un gros punt un gros punk kink au Big Show. Et ce Monday Night Raw se termine ainsi. Victoire de Randy Orton dans un match de 13 minutes en main event. Bon, un match qui nous avait été pas mal teasé déjà la semaine dernière. Donc, papy, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de vétéran? Encore un match de vétéran pour le coup, là.
Ouais, j'étais un poil déçu du match de vétéran. Pourtant, je les avais bien aimés jusque-là. En fait, j'ai trouvé le Big Show. Alors, même si nous avons essayé de nous le présenter comme méga fort, est-ce qu'il se relève quand même derrière KO, quoi. Tu vois, c'est rare, quoi, les mecs qui se relèvent derrière KO. Mais par contre, j'ai trouvé absolument pas mobile, quoi. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, il est catché contre Drew McIntyre, j'ai pas ressenti ça. Mais là, j'ai l'impression que dès le début, il avait à peine à marcher, quoi, le pauvre. Et ouais, du coup, ça m'a fait mal au cœur, finalement, pour le pauvre Big Show. J'étais déçu de ce match parce que je me suis dit, le pauvre, là, il est parti en un match et c'est impossible de masquer ses lacunes, en fait. Il est en trop, trop mauvais état. Enfin, je sais pas, ou c'est peut-être moi qui ou c'est peut-être le fait d'avoir vu plein de gens venir dans tous les matchs d'avant. Mais là, je l'ai senti vraiment. Enfin, c'est la première fois que ça m'a autant marqué de me dire que le Big Show était dans un sale état, quoi. Au niveau des genoux, notamment. Rien plié, quoi. La plupart des coups, enfin, tu vois qu'il essaie de se mettre un peu couché avant. Enfin, ouais, les RKO sont pas. Enfin, aucun coup est vraiment bien pris parce que bah, tu sens qu'il ne peut plus faire grand-chose, quoi. Sur le pauvre Dizzy tue les cordes, tu vois qu'il. Enfin, en plus, bah, encore une fois, hein, je pense que dans ces cas-là, ce serait mieux de le filmer dans l'autre sens, le truc, plutôt que de voir Big Show qui s'accroche avec ses deux mains pour ne pas tomber quand il se tient à Orton. Pendant le DDT, c'est dommage, quoi, de montrer ça, de montrer les ficelles. Il faut montrer l'autre sens, qu'on ait une vue un peu plus impressionnante. Mais voilà, quoi. Donc, j'en veux pas au catcheur, quoi. Malheureusement, je pense qu'il fait avec ce qu'il a. Et au niveau de l'histoire, bah, c'est bien. Orton est en mode légende killer. Il enquille les légendes, il enquille en plus les punch kicks. Je pense qu'il est tout en haut de la carte des heels. On parlait d'une belle affiche pour Drew McIntyre. Moi, je persiste, Cécile, en disant que Orton, ça serait probablement le meilleur choix pour donner un adversaire de valeur à Drew McIntyre. Voilà, quoi. On passe à la suite. Peut-être qu'il va se dévoiler justement après le Ziggler McIntyre la semaine prochaine. C'est peut-être l'occasion de sortir de sa cachette. On va voir.
Ouais, alors on vous dit un match de vétérans, hein. on est pas loin, hein, parce qu'il y a quasiment 90 ans sur le ring à E2, puisque le Big Show a 48 ans et que Randy Orton en a 40.
Il y a un petit jeune encore, hein. On parlait de
Un petit jeune encore, c'est clair. Ouais. Alors moi, écoute, moi j'ai eu un peu les mêmes sensations que toi, hein. Moi ça me fait presque du mal en fait pour le Big Show, parce que moi je revis un peu ce que j'ai vécu avec André à la fin des années 80, début des années 90, quoi. Alors que André le Géant, vraiment, sur ses derniers matchs à la fin, c'était assez terrible, quoi. Vraiment, il avait perdu toute mobilité, il avait les genoux en capilotade, il était complètement. C'était très compliqué, et je trouve que je revis en fait la même chose avec le Big Show à l'heure actuelle, quoi. On a ses dernières apparitions sur le ring à chaque fois, et encore, il est en bien meilleure forme que ne l'était André à la fin de sa carrière.
Oui, parce que grâce à la médecine, il a fait comme des pas le progrès depuis. Donc,
voilà.
Je pense que ça l'aide beaucoup. Hein.
Ouais. Je pense que son gigantisme a été traité de meilleure manière que ça n'a pu être traité pour André Rossimov. Et puis, je pense que le Big Show a certainement une hygiène de vie aussi largement meilleure que celle qu'avait André le Géant.
Bah, il a perdu du poids sur les dernières années. Hein. Ça se voit, quoi.
Ouais, sur ces dernières années, ouais, il s'est pas mal. Mais voilà, il arrive, il a 48 ans. Il a plus le rythme et voilà, et du coup ça donne des matchs quand même très 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 moyennasses, quoi, là vraiment. Et puis bon, moi Randy Orton, j'en suis pas un fanat absolu, hein. Je trouve comme je dis souvent, lent et méthodique, donc on peut souvent interpréter ça comme chiant. Mais là du coup, face à un gars qui est lent de par son âge, son état physique, etc., bah ça donne un match vraiment pas terrible, quoi. Et ça nous donne un main event de Raw quand même qui était quand même très. Ouais. C'était longuet, quoi. Tu vois, ça a duré 13 minutes 45, mais ça m'a paru très, 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 très long, quoi.
C'était long et dur à regarder en fait en même temps. C'est ça qui est.
Ouais, je te dis, c'est la même. C'est marrant, hein. J'ai la même sensation qu'avec André, quoi. C'est là le Big Show, voilà, quoi. J'ai du mal pour lui, quoi. Enfin, voilà. Bon, après qu'ils perdent ce match, de toute façon, on s'y attendait tous. Hein. Il n'y avait pas de surprise là-dessus. Je pense que Randy Orton va être envoyé vers d'autres horizons dorénavant. Quoi. Lui, il continue finalement juste son opération de destruction des légendes. Voilà, le Big Show en fait partie. Voilà. Alors maintenant, est-ce que Christian va revenir dans le game? Est-ce que Randy Orton va aller vers le titre suprême? Voilà, tout ça, vous le saurez en nous écoutant dans les prochaines émissions, parce que voici venu maintenant le temps du top, du flop et de la note de l'irréductible papy.
Oui, alors pour le flop, je ne vais pas le donner au Big Show, parce que comme je l'ai dit, ça me fait mal au cœur en fait, de le voir dans cet état-là. Et donc, j'ai pas envie de rajouter un flop par-dessus. Voilà, il a déjà trop de choses à gérer, ce pauvre homme, pour que je mette un flop par-dessus. C'était pas un bon main event, comme on l'a dit, mais voilà, par respect, on va dire, pour le bonhomme, je vais pas lui donner à lui. C'est rare que je respecte quelqu'un, hein, donc, qui profite, le gros show. Plus sérieusement, mon vrai flop, du coup, je vais le donner au tag team, en fait, hein. Je pense qu'on l'a senti quand j'ai donné mon avis, mais j'étais vraiment pas content d'enlever la stipulation pour le titre et voilà quoi. Enfin, je comprends pas qu'on n'arrive pas à donner de l'importance à ce titre alors qu'en plus on a des bons champions, des bons challengers derrière une troisième belle équipe avec les Viking Raiders. On a vu quand ils font du catch chariot que c'est très vite très bon. Et puis direct, bah non, on les met pas au pay-per-view, on les met pas à Raw avec un titre pour un match pour le titre, et on rallonge la sauce. Et moi, je suis pas content de ça. Donc carton rouge parce que j'étais vraiment pas content pour ce choix-là. Mon top. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ce show? Je rame. Très compliqué là. Désolé de faire durer le suspense, mais c'est parce que j'ai vraiment aucune idée. Mais, allez, je vais le donner à l'intelligence du booking du match 3 contre 3. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de fausse note. C'était pas génial. Mais il n'y a pas eu de fausse note dans la construction. Il y a le bon mec qui a perdu, il y a le bon mec qui a gagné, il y a la bonne manière d'éliminer le mec fort. Voilà. Globalement, ils ont joué sur les forces de chacun et les faiblesses de chacun. C'était un match pour ce que c'était. C'est vraiment du mid-card, low-card, hein, ce match-là. Hein. Et pour ce que c'était bien fait. Voilà. C'est peut-être le seul match qui soit à la hauteur des espérances dans la soirée. Donc, mon top à lui. Alors, tu vois, quelque part, tu vas être heureux parce que c'est un top par ricochet à ricochet. Mais bon.
Par ricochet, plus... joli.
C'est ça, mais non, mais c'est en plus pour l'intelligence du booking de ce match-là, on va dire. Et ma note, du coup, tu vois, j'étais parti sur peut-être donner une petite moyenne, mais plus on a avancé dans le show, plus je me suis rendu compte que c'était une longue souffrance. Alors, il était moins catastrophique que d'autres shows où on a eu, par exemple, des main events avec des toasts, tu vois, par exemple. Je vais pas citer le show. Mais c'était vraiment pas terrible. Donc, je vais donner un simplement 2. Voilà. Parce que pas satisfait du match. Voilà. Je sors pas satisfait de mon visionnage. C'est tout ce que je peux dire.
Bon, écoute, je vais te rejoindre parce que moi, j'ai pas aimé ce show non plus et que moi aussi, je suis dans un sacré marasme pour trouver un top.
Ah oui.
Parce que moi non plus. Hein. Alors après, c'est compliqué, plein de catch-up. On vous fait le play-by-play, tout ça. On est enthousiaste, etc. Il faut bien qu'on vous vende notre preview aussi un peu, quoi. Mais dans les faits, dans la réalité, pendant le visionnage, quand j'ai coupé à la fin de ce main event de Big Show Orton, je me suis dit waouh, un des plus mauvais rôles que j'ai vu depuis longtemps. voilà ce que je me suis dit. Je m'attendais quasiment à une note pire que ça en plus de ta part là. Donc tu vois, vu ce qu'on
non, parce que le match était si mauvais. Hein.
Pas mal. Ouais, il y a eu quelques matchs parce que
il y a eu du temps en plus.
Mr. Black a été pas mal en fait en soi. Il y a eu il y a eu quelques trucs pas mal quoi. Bon, écoute, je vais donner mon flop au satellite avec Stephanie McMahon et la gestion du titre féminin d'Euro. Voilà.
Vous se mérite aussi.
Voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé à Extreme Rules. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé à Raw finalement. Tout ça, moi, ça m'a fortement déplu. J'aime pas du tout. Voilà, je reviens sur l'histoire du General Manager, hein, mais j'aurais préféré quelque chose dans ce style-là plutôt. Voilà, ça m'a pas plu, vraiment pas plu du tout, quoi. Donc voilà, j'aurais voulu que ça soit géré autrement. Et c'était loin, loin d'être le cas. Donc, je vais donner mon flop à ça. Mais très franchement, j'aurais pu donner mon flop à d'autres choses aussi. Mon top. Mon top, c'est très très compliqué en fait, hein, mon top. Hein. J'ai pas de truc qui m'a super emballé. Effectivement, le 3 contre 3 était, catchesquement parlant, était certainement la meilleure chose du show. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je vais laisser ça à ce que j'allais te dire, que j'allais le donner finalement à Mustapha Ali pour célébrer son retour, tout ça, etc. Mais finalement, écoute, je vais être un bon tag team partner et je vais te suivre sur le 3 contre 3 comme ça, parce que c'était vraiment le meilleur des trucs qu'il y a eu ce soir. Et moi, je vais dire, ma note, très franchement, c'est 1,5. Voilà, je ne peux même pas lui mettre un 2, parce que vraiment, en plus, moi, c'est un truc que je déteste. Dans les weekly, c'est terminé avec un main event qui ne me plaît pas. Alors là, ça, c'est rédhibitoire pour la note du show, déjà. Quoi. Si le main event, déjà, ça ne passe pas, aïe. Et là, franchement, c'est un des plus mauvais rôles que j'ai vu depuis un moment, là. Et puis, bah, écoute, on va terminer là-dessus, mais pour confirmer, les audiences ont encore été catastrophiques.
Ça laisse un sale goût, ce main event, en fait.
Un tout petit chouille au-dessus de ce qu'ils ont fait la semaine dernière, qui est donc le Raw de la semaine dernière, qui a été le pire de l'histoire. Donc, ils ont fait un peu mieux. Par contre, dans la tranche d'âge qui privilégie, c'est-à-dire les 18-40 ans, quoi, tu vois, eh ben, ils ont fait le pire score. Donc, Raw continue à ramer puissance 1000 au niveau des ratings, quoi.
Ouais, et je suis pas sûr que ça s'arrange. Hein. Sincèrement, en voyant le Raw, je me suis demandé si à un moment ils étaient pas en train de baisser les bras face à la situation, le public qui est pas là de revenir, les catcheurs qui commencent à manquer pour la maladie, tout ça. J'ai senti qu'ils alignaient les segments et les bâches les uns après les autres, mais il n'y avait pas aucune flamme en fait. Je me demande s'ils baissent pas les bras là en voyant ce show-là.
Bah, le problème, en fait, c'est que je crois qu'ils ont un problème déjà de gestion du personnel, quoi. C'est-à-dire que entre les quarantaines, les gens malades, les gens absents, les gars qui peuvent pas revenir comme ceux qui sont au Canada, tu vois, je crois que déjà il y a un problème de gestion des ressources humaines finalement à la WWE à l'heure actuelle, quoi. Et que félicitations, d'ailleurs Ringside l'a dit dans la review d'Extreme Rules, félicitations aux catcheurs en fait qui sont là. Parce que eux, ils bossent comme des dingues. Et quand tu vois des Asuka, même Randy Orton, hein, Randy Orton, il est au four au moulin, mine de rien. Hein, Drew McIntyre, pareil. Et en fait, on tourne un peu tout le temps sur les mêmes, quoi, depuis le début. Quoi. On a l'impression que c'est ceux qui ont réussi à avoir une piole, un appartement ou une maison à Orlando qui peuvent bosser, quoi. Et comme ça manque de fil conducteur, quoi.
C'est ça. Quand je dis qu'ils ont baissé les bras, c'est pas les catcheurs. Hein. Les catcheurs, effectivement, tu sens qu'ils se donnent toujours à 100%, avec parfois vraiment des stipulations complètement débiles. Et moi, quand je dis baisser les bras, c'est les bookers, en fait, parce que les choses sont pas très bien montées, parce qu'ils laissent passer plein de botches, plein de trucs qu'on ne devrait pas voir. Il n'y a pas de fil conducteur, voilà, comme tu viens de le dire. Il n'y a pas de surprise. Ils enchaînent les matchs comme ça, et puis ils changent de stipulation. Et puis il y a un mec qui est pas là, mais pour pas justifier, on va juste dire qu'il a mal au genou. Puis du coup, voilà, MVP, démerde-toi avec ton micro et vends-nous quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'on les laisse vraiment un peu en roue libre. Bref, c'est en roue libre finalement, parce que Bayley et Sacha, c'est ça, c'est de la complète roue libre. Et ils ont juste ramené Stephanie McMahon cette semaine pour donner un peu de cadre. Et donc, je pense, enfin voilà, c'est vraiment dur en ce moment, je pense.
Ouais, une période compliquée, hein, de toute façon, ce Corona Mania, donc ça se ressent largement sur les shows à la WWE, en tout cas. Et c'est vrai que c'est pas simple, hein. De toute façon, même nous, en tant que fans, en tant que suiveurs, c'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire, hein, depuis plusieurs mois maintenant, hein, parce que là, c'est pas comme si la petite affaire, ça durait depuis 2 ou 3 semaines, hein. Là, ça fait... Ah, je suis de retour, excusez-nous les amis, on est en direct, petit problème de son. Juste à la fin, en plus, on vous fait ça.
Exactement, il y a des petites coupures là.
Voilà. En fait, c'était parce que voilà, ils voulaient pas qu'on fasse l'autopromo.
Bisous à Giscard.
Non, pas d'autopromo. Bisous à Giscard, bisous à IRM, bisous à tout le monde. Voilà, non, ici, c'est là, c'est bien le temps. Ainsi se termine donc ce RAW du 20 juillet 2020. Les amis, vous connaissez la procédure, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux partout, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel de Catchup, catchup.lepodcast.fr, et bien évidemment sur YouTube où il faut actionner la cloche. Où il faut s'abonner, où il faut nous déposer des commentaires, les amis aussi, quoi. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous reprendre ou à dire si vous n'êtes pas content, parce que vous n'êtes pas d'accord. Et puis sinon, bah, vous pouvez aller faire ça aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est partout. Nous sommes omniprésents. Nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour de la toile catch-up. Bon, bon, papy, c'était un plaisir de te retrouver pour cette review de ce Euro vraiment pas terrible.
Mais oui, non, mais l'Euro était pas terrible, mais notre échange était magnifique. Donc, voilà. Partager.
Formidable.
Formidable.
Et ben voilà, c'est comme ça que c'est sur ces bonnes paroles que se termine cette review. On vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face.
Voilà.
On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut mon papy.
Salut tonton, salut à tous et restez forts.
Salut papy de catch. On l'aura un peu démoli ce show, hein, mais il le méritait, non?
Ouais, ben c'est... Voilà, de la même manière que ça faisait mal au cœur de regarder le Big Show galérer, ben nous, ça nous a fait mal au cœur de le démolir, mais il faut que les choses se fassent.